Radio Okapi.
Le journal Daniel Tamizoni.
Bonjour à tous, voici les titres de votre journal. Ne pas répondre à l'invitation du chef de l'État pour un homme d'État, c'est marcher à l'encontre de la volonté de la nation. Les députés membres du regroupement politique AA-BAR-A ont renouvelé leur confiance à l'autorité morale de leur parti. Ils l'ont fait pour couper court à d'autres membres du FCC qui accusent Pius Mobilou pour avoir pris part à la prestation de serment des juges constitutionnels. Dans ce journal, nous parlons des conditions de vie difficiles pour les déplacés internes de Bujumbo dans le sud Kivu, des enfants malnutris, des nourrissons qui vivent sous des intempéries, pas de soins de santé. C'est le tableau que nous peint dans quelques instants Emmanuel Elameji Wakabedi qui a visité pour nous ce site. 20 organisations environnementales et de défense des droits humains s'opposent à la spoliation du parc national des Virunga au Nord Kivu. Elles ont saisi pour cela le chef de l'État et le gouvernement provincial du Nord Kivu. Le secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, l'une des organisations signataires de la correspondance, est l'invité de ce journal pour en parler. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Tractation autour des consultations politiques annoncées par le chef de l'État, les députés du regroupement politique AA-BAR-A réitèrent leur confiance à Pius Mobilou, autorité morale du parti actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat. Les 20 députés nationaux de ce regroupement ont dénoncé dans une déclaration publique hier ici à Kinshasa les attaques des autres membres du FCC contre le ministre Pius Mobilou, reproché pour avoir participé à la cérémonie de prestation de serment des juge de la Cour constitutionnelle la semaine dernière. Ne pas répondre à l'invitation du chef de l'État pour un homme d'État, c'est marcher à l'encontre de la volonté de la nation. Le porte-parole du regroupement AA-BAR-A, Adoubangou Nkoyi, élu de Mahagi, le dit au téléphone de Michel Kifindangoy.
L'action que le ministre a posée, c'est une action républicaine basée sur une éthique politique. Sa présence dans cette cérémonie fait état d'un homme d'État. C'est un acte que tout le monde devrait copier. Notre regroupement AA-BAR-A, lui-même, il est l'autorité morale. Et quand on voit le regroupement, on voit les 20 députés. Sa présence au ministère nous amène à le soutenir avec la toute dernière énergie et à tout ce qu'il est en train de faire pour le bien-être du peuple congolais.
Si votre autorité morale s'est décidée de quitter le FCC pour se rallier au président Félix Tshisekedi, vous lui apporterez votre soutien.
Bon, jusque-là, nous ne sommes pas là-bas. Laissez l'État au temps. Donc, nous continuons à garder notre position, accompagner le regroupement et être député du FCC. À moins que les gens puissent chercher à nous faire partir des forces.
Le collectif d'action de la société civile Casque en abrégé estime que la crise en RDC est multiforme et multisectorielle. Elle ne peut être résolue à travers seulement des consultations du chef de l'État. C'est la déclaration à la presse hier lundi ici à Kinshasa de Samuel Bossacelé, un des porte-parole de cette plateforme. Le Casque salue les consultations mais reste constant dans sa démarche et demande au président de la République de convoquer après les consultations un dialogue global et inclusif à l'issue duquel découlera un projet commun de société pour développer le pays. Samuel Bossacelé au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Tout part d'abord d'un constat. On ne le dit pas le mot très clairement, mais il y a crise. Et dans notre démarche à Noukas, nous avons appréhendé cette question de manière plus globale. Aujourd'hui, les consultations initiées par les chefs de l'État sont des consultations qui sont salutaires, mais ça ne résout que le problème politique. Et dans ces problèmes politiques, je crois qu'on aura peut-être aussi l'occasion de revenir sur le scrutin passé. Mais nous, dans notre démarche, on se dit qu'on ne pourra pas résoudre le problème qui est dans un cas. Il faut le prendre dans sa globalité. Parce que la crise, nous l'avons précisé, la crise n'est pas que politique. Elle est également sociale. Et je pense que c'est la plus grande crise. Elle est aussi morale. Parce que si aujourd'hui nous combattons la corruption et tout le reste, c'est parce que justement cette dimension de la crise n'est pas prise en compte. Ça n'a jamais été prise en compte dans n'importe quel pourparler. Il faut justement qu'il y ait un dialogue qui prendra en compte toutes les crises possibles, parce qu'on en a de diverses formes, qui prendra en compte toutes ces crises. Mais écoute, il y a aussi le peuple qui doit avoir une solution à ces problèmes qui sont sociaux. Il y a également la nation qui doit prendre des solutions aux problèmes diplomatiques, aux problèmes sécuritaires.
C'est en principe cette semaine que débutent les consultations politiques telles qu'annoncées par le chef de l'État dans son adresse à la Nation le vendredi dernier. Félix-Antoine Tshisekedi veut se constituer une union sacrée pour la République qui lui permettra d'exercer toutes ses prérogatives en tant que chef de l'État et ainsi gouverner le pays dans sa vision. Mais il ne peut le faire que dans un cadre constitutionnel en identifiant une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Quelle chance a-t-il pour y parvenir, Michel Kifinangoï?
Conformément à l'article 78 de la Constitution, le président de la République aura besoin de la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale pour former son gouvernement. Si cette majorité n'existe pas comme c'est le cas actuellement, étant donné qu'aucune liste de députés ne porte le nom du FCC, les chefs de l'État disposent donc d'une brèche pour identifier une nouvelle majorité. Seulement, la manœuvre n'est pas facile du moment que la majorité des députés sont encore fidèles au FCC de Joseph Kabila. En effet, la première force politique au sein de l'Assemblée nationale et le PPRD avec moins de 120 députés. Grâce à son alliance avec l'AFDC, AAB et tant d'autres, le FCC réunit plus de 340 députés, laissant ainsi à la deuxième force du Parlement, ensemble de Moïse Katumbi avec 76 députés, puis le CASH avec 48, le MLC 22 et les autres 9 députés. La possible alliance CASH-Lamouka-AFDC ne pourra réunir que 196 députés sur les 500. Félix Tshisekedi pourra donc compter sur les débauchages des 182 députés membres de plateforme au sein du FCC, autres que le PPRD et le PRP de Jeannette Kabila. Mais seulement, le jeu n'est pas aussi facile, surtout que la stratégie de Joseph Kabila et son FCC n'est pas encore connue.
Les déplacés internes de Bijombo, un territoire d'Uvira, vivent dans des conditions déplorables. Près de 5000 enfants n'ont pas accès aux soins médicaux et manifestent des cas de malnutrition. Plus de 10 femmes accouchent chaque mois dans ce site et leurs bébés vivent sous des intempéries insupportables. La confirmation est de l'infirmier titulaire du centre de santé installé dans ce site. Emmanuel Elamejoua Kabedi a visité pour nous ce site de déplacés de Bijombo et nous propose ce reportage.
Ce n'est pas un camp de réfugiés proprement dit, mais c'est un site de déplacés internes de Bijombo. La plupart sont venus des territoires de Fizi voisins pour s'y ajouter à ceux de plusieurs localités de Bijombo en territoire d'Uvira. À ce jour, 1029 hommes, 1186 femmes avec 4971 enfants vivent ici aux abords du site des casques bleus de la MONUSCO à Bijombo. Sur ce site, il manque presque de tout. Presque pas de nourriture. Pas d'accès aux soins de santé, les enfants ne vont plus à l'école. Plus de 60 cas de malnutrition ont été enregistrés les 3 derniers mois, avec 13 décès. Ici, ce sont les filles de moins de 15 ans, panier au dos, qui montent les collines à la recherche du bois d'échauffe. Bizimungu Kashongo, 23 ans, enseignant à l'école primaire Bijombo, dit être arrivé à bout de sa peine. Chaque mois, les femmes accouchent ici à même le sol. Difficile de croire comment ces êtres humains survivent ici sous des intempéries de la zone de Bijombo où il fait extrêmement froid. De Bijombo dans le territoire d'Uvira, Emmanuel Elamejoua Kabedi, Radio Kapi.
Emmanuel, et nous parlons de la colère des infirmiers qui accusent de mauvaise gestion le médecin chef des zones de santé de Mbulula. Nous sommes à 60 km à l'est du centre de Kongolo dans la province du Tanganyika. Sur place, la situation reste tendue. Les infirmiers ont saisi le gouverneur de province par une correspondance. Françoise Avimibé a lu pour nous cette correspondance.
Ce qui fait tendre les nerfs des infirmiers, c'est entre autres les fonds de prise en charge sur les différentes formations auxquelles ont participé les infirmiers de la zone de santé de Mbulula. Aucun rond n'est jusque-là remis aux infirmiers participants pour des formations suivies depuis plusieurs mois. Les infirmiers sont parvenus même à coucher et énumérer toutes les revendications dans une correspondance de 3 pages adressée au gouverneur de la province du Tanganyika.
Pour préserver la bonne marche de la zone de santé et pour ne pas sacrifier la population de la zone de santé de Mbulula, il faut que nos autorités trouvent rapidement la solution à nos problèmes pour que nous puissions retrouver nos droits piétinés par le médecin chef de zone.
Le médecin chef de zone de santé de Mbulula, accusé de mauvaise gouvernance et de détournement des fonds destinés aux infirmiers, indique attendre la présence d'une commission de contrôle pour tirer les choses au clair. Le docteur Daniel Mwambampoyo.
Nous attendons l'arrivée d'une équipe qui doit venir du Kalemi pour voir d'abord la véracité de tout. Et maintenant, nous allons poursuivre tout cela qui était derrière cette affaire, puisque c'est ma réputation qui est mise en jeu.
La zone de santé de Mbulula compte 21 infirmiers actifs et signataires de la lettre de revendication. Kalemi, François Xavier Mibé, Radio Kapi.
En province du Maniema, le comité provincial de coordination et de suivi des programmes de coopération RDC-UNICEF a participé à la revue annuelle 2020 du programme de coopération RDC-UNICEF qui s'étale sur 2020-2024. Ces assises avaient pour but d'évaluer le niveau de résultats atteints pour différents programmes réguliers appuyés par l'UNICEF dans la province du Maniema pour la période de sous-examen. Pour le chef de division provinciale du plan, cet exercice est une obligation pour juger les progrès réaliser, examiner les contraintes et réajuster les résultats poursuivis pour les rendre plus réalistes et réalisables dans la limite du temps et des ressources disponibles. Moania Mokunku Filemon au micro de Florence Kizalunga.
Les revues provinciales constituent des opportunités pour le gouvernement national, provincial, l'UNICEF ainsi que les autres partenaires d'examiner, de mettre à jour les résultats atteints par les différents programmes sectoriels afin de se faire une idée sur les efforts accomplis. La présente revue annuelle vise les objectifs suivants. Apprécier le niveau de progrès vers l'atteinte des résultats au niveau des produits tels que définis dans le plan de travail roulant 2020-2021. Apportant un regard particulier sur les enfants les plus vulnérables, identifier et analyser les goulots d'étranglement et des écarts d'équité dans la réalisation des résultats, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces à la mise en œuvre du programme. Prioriser les interventions clés à mettre en œuvre dans notre province pour les nouveaux programmes de coopération et cela dans un contexte de développement basé sur l'équité et la réalisation des droits de l'enfant. Enfin, tirer les leçons apprises de la mise en œuvre du programme 2018-2019 pour formuler des recommandations et des actions correctrices.
L'apport des agences de Nations Unies est vraiment considérable sur le plan éducationnel en RDC. C'est la déclaration du président du comité estudiantin de l'université officielle de Semouliki. Fabrice Mouloali souligne qu'il faut continuer à améliorer le système pour que l'éducation en RDC réponde aux standards internationaux. On l'écoute au micro de Marc Marofimbo.
L'apport, il est considérable quand il faut voir les interventions des Nations Unies dans des milieux de guerre pour aider les enfants en termes de dons, en termes de renforcement de sécurité des écoles en milieu d'insécurité. Il faut dire que certains même ont profité des repas à l'école en termes de renforcement pour la santé des écoliers et des élèves. Alors s'il faudra améliorer en tout cas, je pense que le pays souffre d'un problème d'infrastructure, c'est le premier. C'est qu'on a, encore besoin de beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus de matériel. On a également besoin, en tout cas, comme je l'ai dit, des matériels. Avec l'évolution de la technologie, il faudra quelque sorte numériser l'enseignement. Il faudra adapter l'enseignement à l'évolution de la technologie. C'est un besoin énorme et je crois que avec cet apport, si on y arrive, l'enseignement du Congo sera à un niveau des standards internationaux comme on le voit dans d'autres pays qui sont suffisamment développés.
Le premier vol de la compagnie Sauterelle a atterri vendredi dernier à Hui Kong dans le territoire de Luilou. Le dernier aéronef qui a atterri sur la piste de l'aérodrome de Hui Kong remonte à plus de 50 ans. Cet avion affrété par les opérateurs économiques est parti de Kinshasa via Chikapa avec à son bord des marchandises. Cette bonne nouvelle a réjoui les habitants de la localité de Hui Kong et environ qui sont venus très nombreux pour voir cet aéronef, affirme la société civile du territoire. Le début du trafic aérien sur Hui Kong et les résultats des démarches entreprises par les jeunes et appuyés par les députés nationaux ressortissants de ce coin après la conférence sur le développement de la province de Lomami tenue récemment à Cabinda. Le député national Anaclet Kalimusongo le dit au téléphone de Esther Nalafina.
L'aérodrome a 8 jours suite à des travaux intenses organisés en collaboration avec les services locaux. Depuis vendredi passé, le vol est parti jusqu'à Hui Kong. Du constat du pilote et technicien de Sauterelle Aviation, ils ont trouvé une piste très bien aménagée qui peuvent permettre d'accueillir même un aéronef plus grand que l'Antonov du type B qu'ils ont amené. Ce premier vol qui a été effectué a été un vol cargo qui transportait que la marchandise de certains opérateurs économiques pas seulement des Wikong, aussi du Lualaba, de la chefferie de Mwantiav qui exerce leur activité commerciale à partir des Moussoumba. Ceci a été d'un grand succès. La population était émerveillée. Comme dans un rêve, ils ont pu voir leur marchandise partir de Kinshasa directement sur Wikong.
Actualité internationale.
L'atmosphère est restée hier lundi tendue dans la capitale guinéenne Conakry, les habitants tentant de se relever des violences post-électorales qui ont suivi la réélection contestée du président sortant Alpha Condé, alors que se poursuit une médiation internationale. L'appel à manifester contre un troisième mandat du président Condé lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution n'a été que peu ou pas suivi de nombreux habitants disant craindre pour leur sécurité, ont constaté les journalistes de l'agence France Presse.
L'invité.
Le plus vieux parc d'Afrique, le parc national des Virunga au Nord Kivu, est de plus en plus pollué par des réseaux divers. 20 organisations environnementales et de défense des droits humains qui s'opposent à ces pratiques se sont adressées mardi 20 octobre au président de la République et au gouverneur de la province du Nord Kivu. Notre invité est Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, une des organisations signataires de la dite correspondance. Il s'entretient avec Bernard Denyangui.
Maître Olivier Ndolé, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi exactement le problème? À quel niveau se présente la spoliation du parc?
La problématique liée à l'envahissement, mais aussi, si vous voulez, à l'exploitation illicite du parc national de Virunga, c'est une question qui préoccupe les acteurs, que ce soit au niveau national comme international, mais aussi c'est une question qui a pris une tournure qui est inacceptable, où, par exemple, pour les cas précis, aux alentours de Mugunga, vers Sake, vers Kiloliro et ailleurs, où il y a des gens qui se revendiquent être propriétaires des espaces dans les parcs, en vertu, soi-disant, d'un jugement et des populations les plus pauvres surtout, sont en train d'être escroquées par des gens qui ont développé en quelque sorte un marché foncier illégal au niveau des entités qui sont situées dans les parcs nationaux de Virunga. Et pour nous, nous sentons qu'il s'agit non seulement des risques d'affecter, si vous voulez, l'économie des paisibles et citoyens, mais aussi une violation flagrante à ce qui concerne les engagements de la République démocratique du Congo par rapport à la justice climatique, mais aussi par rapport aux droits liés à l'économie verte. Voilà un peu ce qui a fait que nous puissions saisir non seulement le président de la République qui est le représentant de l'État congolais.
Et s'ils brandissent les jugements, est-ce que ce sont des jugements qui sont exécutés par des instances ou bien des personnes qui sont accréditées?
C'est ça aussi la problématique, parce que nous sommes dans un état de droit. Il y a aussi des voies d'exécution, c'est-à-dire des procédures pour exécuter un jugement. C'est-à-dire, nous estimons que même si, dans l'impossibilité où il y aurait un jugement qui condamnerait l'État congolais, ce n'est pas une partie au procès d'aller exécuter un jugement. Même si aussi la décision est rendue et condamnant la République démocratique du Congo, l'exécution d'une telle décision est préalable à des procédures et doit respecter aussi l'ordre légal établi. Et dans les cas d'espèce, il y a eu les deux affaires qui sont pendantes au niveau de la Cour d'appel du Nord Kivu, les RCA 4493 et les RCA 4453, où l'ICCN est venu en tierce opposition contre un jugement qui a été rendu contre la République démocratique du Congo au premier degré, parce que ce jugement a foulé les droits du parc national de Virunga. Mais ces étendues de terre où la République démocratique du Congo est responsable et propriétaire des droits sur le sol et le sous-sol, parce que l'État congolais, en vertu du droit OADA, on ne peut pas faire exécuter par force la République. Si de bonne foi la République démocratique du Congo peut s'exécuter en vertu de cette décision, c'est à elle de choisir quelles sont les terres où la République pourra rétrocéder. Mais maladroitement, une décision qui viole au même moment et la Constitution et les droits, on indique que ça doit être dans les espaces de l'ICCN. L'ICCN qui n'a jamais été appelé dans un procès, mais on estime qu'on pourrait donc l'exécuter. Et le greffe, c'est-à-dire les huissiers des cours et tribunaux qui ont mandat d'aller exécuter les décisions, n'ont jamais fait la procédure pour l'exécution.
L'enfouissement du parc national de Virunga, ce n'est quand même pas un fait d'aujourd'hui. Ça date quand même de plusieurs années. Je peux même parler de plusieurs décennies. D'où vient cette faiblesse de l'État congolais ou bien de l'ICCN pour que vous, les organisations de la société civile, vous puissiez vous y impliquer?
Je crois que la faiblesse d'abord, c'est le fait que tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas voulu porter main forte par rapport à l'action. Bien que l'ICCN est une institution publique de l'État, créée par l'État congolais, mais on sent qu'il n'y a pas assez d'appui politique pour sécuriser, si vous voulez, les espaces protégés. Mais aussi, il y a en quelque sorte des chantages politiques où des acteurs politiques veulent faire des mensonges, mais aussi de l'exploitation du parc, leur programme politique. Mais c'est par rapport aussi à l'application de la loi dans toutes ses dimensions, y compris dans les dimensions de la conservation, d'où nous faisons appel à ce que la loi soit appliquée pour que cette situation, cette hémorragie écologique cesse.
Maître Olivier Ndolé, merci.
Merci beaucoup.
Olivier Ndolé répondait aux questions de Bernardin Yangui. C'est la fin de cette édition sur Radio Capi. Vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net.